voilà, je vais vous parler donc de Marius Bertrand. C'est l'industriel qui a offert l'orgue de Saint-Michel. Et donc, en 1941, vous avez Marius Bertrand qui demande au curé Chapelle de Saint-Michel de venir le voir à Lyon. Donc, il a son siège social Place Satonnet à Lyon. Et il lui dit, ben, je vais offrir un orgue à Saint-Michel, en 41, donc en pleine guerre. Il va à son coffre, et là, il sort 210 000 francs, donc une belle liasse de billets, qui donne au curé Chapelle, qui rentre à Saint-Michel avec cette somme. Et donc, on entreprend la construction de l'orgue. Alors, c'est la maison Merclin de Lyon qui va assurer le travail. Donc, c'est fait très rapidement. Hein. Donc, vous avez en 41, donc il est allé à Lyon. Le 7 avril 42, vous avez les transports du Nant qui apportent de Lyon un chargement de 12 tonnes et voyagent avec eux les monteurs. Donc. Alors, les travaux commencent. Vous avez donc toutes les entreprises de Saint-Michel qui participent. Vous avez notamment Charles Magnin. Qui coupe la corniche qui faisait le tour de l'église. Ensuite, on réaménage la tribune. La maison Tribéro donc, se charge de la boiserie, hein, tout ce qui est bois. L'installation électrique, 3000 mètres de fil, est assurée par Albert Busson. Et vous avez donc les monteurs hein, qui se mettent au travail. Le gros bois pour les échafaudages est fourni, bien sûr, par la scierie IGAS. Et voilà l'orgue qui est installé. Il faut modifier un petit peu la façade, tout simplement parce qu'il faut assurer du jour à l'orgue. Et donc, vous aviez au-dessus de la porte de l'église de Saint-Michel, vous aviez une fresque. Donc là, on va percer une fenêtre. C'est Chinaldona qui va dessiner hein, cette nouvelle ouverture. Et vous avez les ateliers Bessac de Grenoble qui vont faire les vitraux. Donc voilà ce don qui est mis en place. Et en 1942, vous avez Marius Bertrand qui est encore ce monde, puisqu'il va décéder en 51, qui peut assister à l'inauguration de l'orgue en présence de Mgr Grumet. Donc pourquoi il a offert cet orgue? C'est tout simplement un souvenir de son grand-père, Marcelin Bertrand, hein, qui était Saint-Nic de Saint-Michel, qui a fait construire l'église en 1830. Et donc, il souhaite laisser une trace, tout simplement parce que M. Bertrand, qui est très riche, n'a pas d'héritier. Alors, qui est-ce M. Bertrand, si on peut passer là? Donc, c'est la seule photo que j'ai pu trouver. Hein, j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Donc, c'est le légataire universel, enfin le fils du légataire universel qu'il avait. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième, non? C'est pas la généalogie. Non. Mais là, elles ne passent pas dans l'ordre. Peut-être parce qu'elles sont pas. Voilà, on vous demande une seconde. Donc voilà, je vous ai fait généalogie simplifiée, donc vous avez Marcelin Bertrand, syndic de Saint-Michel, vous avez donc sa femme, c'était Marguerite Dufour, qui est issue de la famille des Dufour, peintre, si vous voulez, c'est la descendante d'un frère de Pierre l'Ancien, le premier peintre, qui était sculpteur. Donc au départ, les Dufour s'intitulaient peintre et sculpteur. Donc voilà, vous avez, j'ai pas mis tous les enfants, mais vous avez donc Jean-Baptiste Bertrand qui s'installe à Lyon, qui est fabricant de pâtes, et il s'installe avec son frère Alexandre, tous les deux fabricants de pâtes. En réalité, ils ont racheté une fabrique qui appartenait à M. Zerega, qui était un Italien, et ils ont acheté cette fabrique qui était située rue Bouteille à Lyon. Rue Bouteille, c'est, pour ceux qui connaissent, juste derrière la place des Terreaux, lorsqu'on va vers la place Satonnet. Donc, on verra en photo aujourd'hui, hein, comment est-ce... Ça ressemble plus à un magasin, toute petite fabrique fondée en 1825. Et vous avez, si vous voulez, on a vraiment une famille d'industriels. Vous avez aussi leur sœur, Marie-Thérèse Bertrand, qui est mariée avec mon bisaïeul Charles-Félix Juillard, qui est industriel en chaux et qui a les mines d'anthracite de Saint-Michel. C'est notamment aussi, il a été le fournisseur officiel de la chaux pour le tunnel du Mont-Cenis et du Saint-Gothard. Et c'est celui qui avait fondé Roche-Noire, à Saint-Jean, voilà, qui a fait venir la première machine à vapeur en Savoie. Et donc, Marius Bertrand, donc, c'est le fils de Jean-Baptiste, hein, donc l'aîné, qui est industriel aussi en pâte alimentaire, et ils vont donner, tous les deux sont associés, ils vont donner une impulsion à cette fabrication de pâte tout à fait extraordinaire. Hein. Donc, photo suivante. Alors, oui, voilà Marguerite Bertrand née Dufour. Donc là, elle est représentée, c'est un tableau qui est à la commune de Saint-Michel, hein, qui actuellement est remisé dans les archives. En réalité, ce tableau était dans la salle des mariages anciennement, avec le tableau représentant François Rostin. Et donc, ce tableau avait été réalisée à Lyon par un peintre italien, et elle est en costume de Saint-Michel. Donc, alors les Bertrand, oui, quelques mots quand même sur cette famille Bertrand qui est originaire de Villabernon. Hein. À l'époque, pendant 4 ou 5 siècles, Villabernon, c'est un petit peu le centre du pouvoir, Saint-Michel, tout simplement parce que nous sommes dans un fief qui appartient au chapitre, et que les Bertrand, qui eux déclarent en 1426 qu'ils ne relèvent que du duc de Savoie, bénéficient de l'instruction, et on s'aperçoit que pratiquement à chaque génération, ils sont tous qualifiés de maîtres, et ils sont soit avocats au Sénat, soit médecins, soit notaires. C'est vraiment... Alors voilà où habitait Marcelin Bertrand à Saint-Michel, c'est ce qu'on appelle... Le château du Mollard, hein, c'est plus une maison bourgeoise qu'un château. Alors, on l'appelle le château, entre autres parce que en 1738, c'est Joseph de Maréchal qui marie une Bertrand qui habite ici et qui se fait d'ailleurs appeler, ils prennent le nom de Maréchal Bertrand. Et donc, cette maison ici, c'est en réalité où il y a cette maison, le sous-bassement, c'était les écuries. Et donc, cette maison va revenir chez Marcelin Bertrand. Et là, je n'ai pas encore élucidé l'affaire, mais c'est plutôt sa femme, Marguerite Dufour, qui en a hérité par l'intermédiaire de son ancêtre Bertrand. Donc, si on peut voir l'autre photo. Voilà, une photo plus ancienne. Donc là, vous avez l'écurie avec la grange dessus. Le château tel qu'il était à cette époque, et le cimetière, et Marius Bertrand avait déjà donné cette partie-là pour l'agrandissement du cimetière. Donc, alors, l'impulsion donnée au développement des pâtes Bertrand, si on peut passer à la photo suivante, voilà, là vous êtes... rue Bouteille à Lyon, donc vous voyez que c'était un atelier qui était là en rez-de-chaussée, et c'était ici la première fabrique Zeréga à Lyon, qui est devenue la fabrique Bertrand. Et c'est pour ça qu'après, les Bertrand marquaient sur leur facture maison fondée en 1825. Alors ça m'avait un petit peu perturbé, parce que je m'étais dit, ben, comment Jean-Baptiste a-t-il pu fonder une fabrique en 1825 alors qu'il est né en 1817? C'est pas possible. Non, ils allaient racheter cette fabrique, et très vite, ils vont s'installer à Grigny. Grigny, c'est à côté de Givors, hein, c'est au sud de Lyon, si on peut passer là. Donc voilà, là on a déjà, si vous voulez, une publicité, maison fondée en 1825, voyez, et toutes les médailles qu'ils ont obtenues, voyez, fabrique de pâte lyonnaise algérienne, exportation, et usine 27 rue Bouteille et Grigny dans le Rhône. Donc après on a les différents types de pâtes hein, qu'ils fabriquaient. Voilà. D'ailleurs, lorsque Marius naît, la profession du père, c'est marqué vermicelier. Hein. C'est pas fabricant de pâtes, c'est vermicelier. Oui, parce qu'il fabrique voilà, les vermicelles, voilà donc les différents types de pâtes. Et surtout, il précise qu'il fabrique des pâtes avec dans la pure tradition, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas autre chose. Ils mettent que de la farine, ils mettent, parce qu'on fabriquait aussi des pâtes avec certains de fécule notamment. Donc ils mettent notre maison fondée en 1825, qui est une des plus anciennes de France et a obtenu les plus hautes récompenses aux expositions universelles. Alors l'usine de Grigny, voilà, vous avez donc une publicité. Alors Marius Bertrand a été, vous voyez, membre du jury, il était membre du jury pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il reçoit la Légion d'honneur, on verra pourquoi. Alors peut-être qu'on a là, voilà, l'usine de Grigny, la sortie, vous voyez, fabrique, ça c'est la sortie, fabrique de pâte alimentaire Bertrand, c'est la sortie de l'usine de Grigny. Alors voilà différents types de factures, et chaque fois on rappelle un petit peu les lieux où sont fabriquées les pâtes, et notamment en 1900, c'est la grande installation au Havre. C'est-à-dire que l'usine du Havre est construite en 1900, grandit en 1904. Alors si on peut... Donc là, oui, vous avez différents types de factures qui changent selon les époques. On va vers le plus récent. On y passe la suite. Voilà, l'usine du Havre, construite en 1900. Donc une usine importante, parce que l'usine du Havre emploie quand même 250 personnes. Hein, c'est pas une petite usine. Et malheureusement, cette usine du Havre qui reçoit... Pourquoi il l'a construite au Havre? Tout simplement parce qu'il reçoit des blés d'Amérique et du Canada. Et surtout, et c'est pour ça qu'il a eu la... Si vous voulez, qu'on l'a décoré de la Légion d'honneur, c'est parce qu'il reçoit beaucoup. C'est lui qui va faire beaucoup la promotion des blés durs algériens. Donc il va développer cette fabrication, cette semoulerie et puis fabrication de pâte, là, au Havre. Tout simplement parce que les bateaux arrivent au Havre. Donc, mais malheureusement, comme vous le savez tous, en 1940, les Allemands bombardent le Havre. Donc voilà ce qui résulte après. Voilà. Là, c'est après le bombardement. Donc il reste tout simplement un morceau de l'usine. Et donc là, Marius Bertrand ne reconstruit pas l'usine au Havre. Hein, parce qu'ils avaient déjà des terrains à Gennevilliers, à côté de Paris, et finalement il va reconstruire l'usine à Gennevilliers et au Havre. Ce sont 150 logements qui sont construits au Havre, hein, dans un secteur qui va prendre d'ailleurs le nom de secteur Bertrand. Alors voilà l'usine qui est construite à Gennevilliers, en 1947. Donc, vous avez donc la vue de l'usine, hein, qui est une usine importante, essentiellement semoulerie, et surtout avec un port privé pour les péniches qui arrivent, donc vraiment c'est en bordure de la Seine, hein, qui arrivent à côté de l'usine. Cette usine, elle existe encore, hein. Donc si on voit la photo suivante, donc voilà, actuellement c'est ça, hein. Ça, vous allez sur Google Earth, hein, c'est la photo actuelle de l'usine de Gennevilliers. Alors l'usine de Gennevilliers actuellement, qui fonctionne toujours, c'est l'usine Panzani, parce que c'est Panzani qui a racheté les pâtes Bertrand en 1972. Donc voilà, hein, ça fonctionne. Et non, ça après. Cette usine alimente essentiellement l'usine Panzani de Nanterre. Donc voilà un petit peu. Alors, oui, lorsqu'on regarde Marius Bertrand, hein, c'est quelqu'un, bien sûr, très fortuné, il est très fortuné, et son épouse aussi, parce que son épouse, il faut quand même en dire quelques mots, son épouse, qui est née Elisabeth Vernier, c'est la fille d'un négociant en vin qui possède notamment le château d'Ombreval à Neuville-sur-Saône, le château qu'on appelle aussi le château de Vimy. Alors, si lors de son testament, parce que les époux Bertrand ont un fils, mais ce fils n'aura pas d'héritier. Et donc, ils vont consacrer leur fortune à des œuvres et à des fondations. Donc, si on prend la photo suivante, voilà, là c'est à Lyon, si vous allez sur le plateau de la Croix-Rousse, pas très loin de l'hôpital de la Croix-Rousse, vous avez l'EHPAD Marius Bertrand, et vous avez aussi, juste après, la maison pour personnes, pour les seniors, maison aussi baptisée Marius Bertrand. Alors, sur Internet, vous savez, on fait tous pareil, on va chercher sur Internet, lorsque je me renseignais un petit peu, j'avais téléphoné à la directrice de l'EHPAD Marius Bertrand, j'avais dit, mais pourquoi elle s'appelle comme ça, je ne savais pas si c'était vraiment lui, bon, elle m'a dit, ah, non, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on ne sache pas, qu'on a un nom, un bâtiment, et qu'on ne sache pas qui il était. Et en 2014, figurez-vous, la directrice de l'EHPAD voulait rendre hommage à ce Marius Bertrand, tout simplement parce qu'ils ont rénové le bâtiment en 2014. Et finalement, elle a demandé à l'archiviste du Rhône, qui s'appelle Madame Forest, de faire des recherches. Alors même l'archiviste a mis très très longtemps à trouver une piste, et finalement, elle a trouvé une petite plaquette où on parlait du don fait par Madame Bertrand. Parce qu'en réalité, l'EHPAD et la maison senior ont été construites un peu plus tardivement. Marius Bertrand était déjà décédé. Et c'est elle qui a, dans son testament, souhaité que l'on construise ces maisons et que l'on qu'on les appelle Marius Bertrand. Donc, ils ont enfin trouvé qui était Marius Bertrand. Hein. Madame Forest met sur un blog, elle met « J'ai enfin trouvé une piste. Je sais que Marius Bertrand est un industriel lyonnais fortuné. » Voilà. Et elle avait tout résumé. Et donc, Madame Bertrand fait son testament en 1956. Et en 1956, je vais juste vous donner, non pas la lecture du testament, parce qu'il est quand même relativement long, mais si on prend, voilà, « Je lègue 1 million de francs au bureau de bienfaisance de Neuville-sur-Saône, 500 000 francs au bureau de bienfaisance de Grigny. » Bon, elle précise, à condition que ces sommes ne soient pas capitalisées, mais distribuées en secours direct, etc. « 2 millions de francs à l'hôpital de Neuville-sur-Saône, 2 millions aux offices civils de Lyon, pour leur hôpital de Gien pour les enfants, 2 millions de francs au sauvetage de l'enfance, 3 millions de francs à l'association diocésaine de Lyon pour distribuer des secours aux vieux prêtres retraités, 1 million de francs à la Croix-Rouge, de la Pouponnière à Saint-Cyran-d'Or, 2 millions de francs à l'œuvre des patronages libres de Saint-Léonard à Cousin-Mondan, 3 millions de francs à l'association des œuvres françaises de Saint-Vincent-de-Paul, etc. Donc en 1956, hein, avec, comme je disais, avec 1 million de francs, on construisait une maison, elle donne 16 millions et demi, donc à différentes œuvres, et surtout, surtout, elle prévoit de donner ce qui lui appartient, c'est-à-dire le château de Neuville-sur-Saône. Alors c'est... Alors voilà, le château d'Ombreval, c'est ce château. Donc c'est un... Au départ, c'est un domaine extraordinaire, le château de Neuville-sur-Saône, puisque c'était 200 hectares, avec ce château qui a accueilli aussi bien Louis XIII, Richelieu que Louis XIV. Et donc, pourquoi Madame Bertrand d'Evernier était propriétaire de ce château? Tout simplement parce que son grand-père l'avait acheté parce qu'il était négociant en vin, et il l'avait notamment acheté parce qu'il y a, sous ce château, il y a deux étages de caves. C'est-à-dire que c'est un château très ancien qui a été remodelé plusieurs fois, et donc deux étages de caves qui permettaient donc de stocker le vin du négociant. Donc on peut voir la photo suivante. Voilà, donc vous voyez, c'est marqué actuellement, si vous allez à Neuville, c'est ça, Hôtel Neuville. Et donc le château abrite un peu tous les services, et notamment également une maison de retraite. Donc voilà, si vous voulez, la fortune des Bertrand, à quoi elle a servi. Et donc il avait pensé quand même un tout petit peu à son pays d'origine, hein, Saint-Michel, pour offrir l'orgue. Donc vous voyez qu'ils ont finalement consacré toute leur fortune, dans des œuvres charitables et dans des dons. Alors ce qui me fait un petit peu rire quand je lis le testament de Madame Bertrand, puisque leur fils était décédé avant eux, mais il y avait la belle-fille. Ben, la belle-fille n'a eu qu'une chose, c'est marqué, le droit de se faire enterrer dans le caveau familial si elle le souhaitait. Voilà. Alors j'ai supposé que les relations n'étaient quand même pas au mieux avec la belle-fille. Oui, quand on voit ce qu'ils avaient. Donc voilà, si vous voulez, ce Marius Bertrand, qui il était, hein, même si très longtemps c'est quelqu'un qui était un petit peu inconnu. Hein. Alors, si on va plus loin, on va voir la tête. Voilà, l'orgue de Saint-Michel. Je ne sais pas si vous le connaissez. La photo suivante. Oui, un peu la lumière qui en... Et la photo suivante qui est la dédicace, hein, la dédicace de l'orgue. C'est-à-dire que hein, c'est indiqué, c'est en 1942, hein, que l'orgue a été donné par Marius Bertrand et qu'il est inauguré en présence de Mgr Grumel, évêque, du curé Chapelle et de Léon Richard, maire. Voilà. Et donc, Marius Bertrand, moi je ne le savais pas ça, il n'y a pas très longtemps, vous avez Maurienne Généalogie qui a fait un petit peu une communication sur un Francisque Bertrand, qui est le fondateur du journal de la Maurienne, qui a été conseiller général de Saint-Michel, qui a été le conseiller du dictateur Arabi Pacha en Égypte, qui a beaucoup voyagé. Et bien, figurez-vous que c'était le frère de Marius Bertrand. Donc voilà. Donc, me voilà arrivé au bout de mon propos. Alors, oui, je vais quand même vous lire pourquoi Marius Bertrand a eu la Légion d'honneur en 1900. Hein. Service exceptionnel rendu à l'Algérie en faisant connaître la richesse de son sol et la valeur des blés qu'il produit. Production de pâtes pures de tout mélange depuis 1825, fabriquée exclusivement avec des blés durs. Participation à de nombreuses expositions, notamment celle de Turin, où la maison a obtenu la plus haute récompense, limitant ainsi les importations italiennes au profit de la production française. Les différents jurys des expositions auxquelles la maison a participé ont souligné les efforts pour vulgariser l'emploi des blés durs d'Algérie. Marius Bertrand était également syndic de la Chambre syndicale commerciale et industrielle de Lyon et membre du jury de l'exposition universelle de 1900. Donc voilà le personnage Marius Bertrand. Il était, vu qu'on parle de la restauration de l'orgue à Saint-Michel, je ne vous cache pas que j'ai écrit au directeur général de Panzani pour savoir si, par hasard, il y avait quelques crédits pour participer à la restauration de l'orgue. Je n'en crois pas de réponse, hein, je ne le cache pas. Donc voilà. J'en ai donc terminé avec Marius Bertrand.
Alors voilà, il y a un petit sac là. Hein. C'est un petit sac de.
C'était une faire passer. Pas de Bertrand.